Assurance, présente dans 14 pays et leader en assurance vie en Afrique subsaharienne francophone, vous propose Priorité Santé.
Priorité Santé. Caroline Paré.
Bonjour à toutes et à tous. Il s'agit du cancer le plus fréquent chez les femmes. Le cancer du sein touche une femme sur 8 dans le monde, d'après l'Organisation mondiale de la santé. Et majoritairement, dans 80% des cas, les femmes âgées de plus de 50 ans. C'est pour sensibiliser le public à cette maladie qui provoque la mort de 12 000 femmes chaque année en France qu'est organisé Octobre Rose, un mois pour permettre à toutes les femmes d'avoir accès à l'information et le cas échéant à se faire soigner, quel que soit leur revenu, leur origine sociale, leur religion ou leur lieu d'habitation. Pendant cette émission, on va parler prise en charge, personnalisation des soins, accompagnement et encore et toujours dépistage, car un cancer du sein détecté à un stade précoce donne des rémissions complètes, voire des guérisons dans 9 cas sur 10. Avec nous en studio, docteur Nasrine Khaled, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Également avec nous Sonia, bonjour.
Bonjour.
Il y a 7 ans, vous annonçait que vous étiez atteinte d'un cancer du sein. Vous nous raconterez tout à l'heure votre parcours de patiente et de femme. Et en deuxième partie de Priorité Santé, nous serons en ligne avec le Mali, avec le docteur Madani Li, cancérologue, chef du service d'oncologie médicale au CHU Mère Enfant le Luxembourg à Bamako. Et puis, en fin d'émission, nous partirons pour Marseille pour faire le point sur la 23e édition du congrès du Pharo. Ça commence demain dans la ville du sud de la France. Rendez-vous organisé par le groupe d'intervention en santé publique et épidémiologique. Alors, lorsque l'on évoque le cancer du sein, il y a des chiffres qui peuvent faire peur. Et puis, à l'inverse, d'autres qui ont plutôt tendance à rassurer. On va justement commencer par l'un de ces chiffres, docteur Nasrine Khaled, celui des nouveaux cas diagnostiqués chaque année en France. Très important, ce chiffre, 50 000 nouveaux cas. Est-ce que pour autant, on peut parler d'une épidémie de cancer du sein? Est-ce que ce terme d'épidémie est approprié?
Non, je pense pas. C'est vrai qu'il y a une augmentation de nombre de cancers du sein qui est monté jusqu'à 2005. Depuis 2005, ça stagne. Il y a effectivement plus de 53, 54 000 nouveaux cas par an en France. Alors, à quoi c'est dû ça? C'est dû, pour ma part, je pense d'une part, à la sensibilisation des femmes au dépistage des cancers du sein. C'est-à-dire que maintenant, Dieu merci, c'est plus un sujet tabou, on en parle, dès qu'on trouve une boule, on parle entre amis, entre médecins, ou soi-même, et on va consulter. Donc déjà, d'une part, c'est la sensibilisation. Deuxième chose, c'est que les examens qu'on fait maintenant, que ça soit à titre individuel ou dans le cadre de dépistage organisé par la Sécurité sociale, ce sont des examens qui sont beaucoup plus performants. Les mammographies, par exemple, sont plus comme des mammographies avant, c'est des mammographies avec des films numériques qui dépistent très très tôt des anomalies, notamment des petites microcalcifications qui peuvent être un stade précancéreuse, et du coup les examens mammographiques sont beaucoup plus sensibles. Ces mammographies sont complétées par d'autres examens qui sont l'échographie, qui est aussi une sensibilité importante, et également par d'autres comme l'IRM mammaire. Donc la conjonction de plusieurs phénomènes fait qu'on dépiste effectivement plus de cancers du sein. Si on re-regarde ces études, on voit qu'il y a beaucoup plus de cancers du sein dépistés au stade précoce dans la population générale, puisque par exemple dans le cadre de dépistage de masse, 70% des cancers dépistés sont des stades très très bas, donc très très petits qui commencent. Donc c'est vrai qu'il y a plus d'augmentation, mais Dieu merci, c'est des stades plus précoces.
Alors, plus on avance son âge, plus dans l'entourage proche, chacune est confrontée à la maladie. Vous parliez tout à l'heure de ce tabou qui est tombé. On peut parler aujourd'hui du cancer du sein, alors qu'il y a peut-être 10 ou 15 ans, c'était quelque chose qui était gardé secret.
C'est vrai, on peut en parler. Je pense que grâce à divers travaux des associations, des médias, des centres anticancéreux comme l'Institut Curie ou d'autres hôpitaux qui ont des services de cancérologie, on en parle plus facilement. Et en fait, l'ensemble des médecins et tout ce qui est corps médical, que ce soit des personnels de la santé, se mobilisent aussi, notamment dans ce mois d'octobre rose, pour vulgariser un petit peu les termes de cancer du sein, pour en parler, pour parler des traitements, des effets secondaires des traitements. Moi, j'anime plusieurs ateliers, que ce soit au sein de l'hôpital ou à la maison des patientes, pour en parler, pour expliquer les effets secondaires, pour enlever ce tabou et la peur aussi. Mais malheureusement, ça reste quand même un fléau, puisqu'il y a plus de 12 000 morts par cancer du sein en France, chose qui est énorme. Et malgré les progrès thérapeutiques, il y a ça qui touche également les femmes jeunes. Malheureusement, il y a des formes graves, des formes qui répondent pas bien au traitement. D'où l'intérêt de poursuivre nos efforts pour la recherche, pour trouver des traitements plus adaptés.
Alors, Octobre Rose, on l'a dit depuis plusieurs années, plus de femmes qui se font dépister, par conséquent c'est mathématique, plus de cancers qui sont détectés, mais tout de même, l'année dernière on a vu le nombre, la proportion de femmes dépistées reculer. Comment est-ce que vous pouvez l'expliquer?
Alors, l'Octobre Rose et le dépistage de masse a atteint son objectif parce qu'il y a 70% dans le dépistage de diagnostic de cancer précoce, mais malheureusement n'a pas atteint son objectif où il faut au moins qu'il y ait 70-75% de la population qui se fasse dépister. Or, le taux de dépistage, ça avoisine 52%, chose qui est incroyable. Je pense que ça, c'est dû à deux choses. Premièrement, c'est la peur. Parfois, il y a des femmes que je vois, des femmes qui connaissent, des femmes qui savent qu'il faut faire ça. Mais pas, elles ont senti même une boule elles-mêmes. Mais par peur de savoir ce que c'est, elles vont pas. Après, il y a aussi on parle souvent, la mammographie fait mal. La mammographie fait pas vraiment mal. On écrase, c'est vrai, les seins, c'est pas agréable, mais malheureusement, en tant que femme, on fait d'autres examens qui sont aussi pas agréables.
Et trois, ça prend très peu de temps,
voilà,
il faut le souligner.
C'est très peu de temps.
Et après, la douleur ne reste pas
non,
après l'examen,
bien sûr que
c'est
non.
Juste instantané le moment de l'examen.
Exact. Et puis faire la mammographie après les règles, c'est aussi moins désagréable. Et troisième chose, c'est aussi un petit peu ce polémique qui est né en disant qu'on fait beaucoup de dépistage et peut-être qu'on découvre, c'est vrai, des petits cancers du sein, mais peut-être qu'en fait, ces cancers du sein n'auront pas évolué. Au jour d'aujourd'hui, vu la gravité de la maladie, je pense qu'aucun médecin ne pourra dire « j'ai découvert un cancer du sein, eh ben je vais rester là, je vais regarder, je ne vais pas le traiter ». Parce que c'est tellement plus facile au niveau traitement de traiter un petit cancer du sein qui n'est pas mutilant, qui ne donne pas on n'applique pas des traitements compliqués, il n'y a pas d'effet secondaire, ça coûte moins cher aussi. Il faut en parler au niveau de la société, au niveau de la sécurité sociale, qu'attendre que ce cancer du sein évolue. Donc le phénomène, le problème de surdiagnostic, pour moi, c'est pas, parce que ça touche même pas, c'est entre 10 et 15% des cas où c'est un surdiagnostic. Après, c'est sûr, par exemple, il faut adapter le traitement du cas par cas. Par exemple, une dame très âgée, on peut donner un traitement médical, on n'est pas obligé de l'opérer. Mais moi, je pense qu'il faut vraiment ne pas dire qu'il ne faut pas se dépister, qu'il ne faut pas traiter.
La personnalisation des soins, on va en reparler. Hein. Vous restez avec nous, docteur Nasrine Khaled. Je me retourne maintenant vers Sonia, qui est donc avec nous en studio. Rebonjour.
Rebonjour.
Alors Sonia, c'est en 2010, hein, si je ne me trompe pas, que votre diagnostic a été posé. Dans quelles circonstances vous l'avez appris? Vous avez donc appris que vous étiez atteinte d'un cancer du sein.
Alors c'est très surprenant parce qu'en fait, dès la rentrée, j'avais fait mes examens habituels chez la gynécologue. Tout paraissait cliniquement normal.
Ça veut dire la palpation.
La palpation, voilà, absolument. Et puis, un bilan sanguin classique. Et 10 jours après, la gynécologue m'appelle un soir pour me dire, bah, écoutez, il faut venir me voir parce que vous avez un taux de globules blancs absolument anormal et je soupçonne une appendicite. Voilà, c'est vraiment le terme. Donc, je dis, bah, écoutez, je ne comprends pas, j'ai pas mal. Donc, j'y retourne et entre-temps, je ne sais pas si c'est un signe, à l'époque où j'avais mes enfants qui étaient très jeunes, enfin ils le sont toujours, mais ma fille avait 13 mois. Et un soir, ma fille m'a donné un coup sur le sein droit. Et j'ai eu très mal, voilà, très mal. Et le lendemain, une boule bizarre est apparue sur le dessus du sein. Mais alors au début, je me suis dit c'est un hématome, mais c'est vrai que c'était assez violent comme douleur. Et puis cette boule ne bougeait pas en termes de couleur. Donc quand je suis retournée voir la gynécologue pour cette fameuse appendicite supposée, en me rhabillant, j'ai eu, je sais pas, il s'est passé quelque chose. J'ai dit au gynécologue, écoutez, voilà, j'ai une boule, mais je sais pas ce que c'est. Et puis de toute façon, un cancer, ça fait pas mal. Et là, tout de suite, évidemment, repalpation. Et là, visage défait, vous faites une mammo en urgence et vous ne perdez pas de temps. Et là, donc, je me suis fait tout de suite, j'ai fait une mammographie dans un centre réputé. Et je me souviendrai toujours du radiologue qui me dit on va faire une écho car ce n'est pas un kyste. Voilà. Et par la suite, la biopsie a été faite sur place. C'est-à-dire que j'avais le choix entre je retourne chez moi et je le fais au labo ou sur place, et j'ai préféré le faire. Et une semaine après, on m'annonce par téléphone le cancer, mais j'en veux pas aux médecins. Hein. Je tiens à le dire, c'est je tenais pas en place. Et puis
vous avez besoin de savoir.
Voilà.
Docteur Nasrin Khalez, première remarque par rapport à ce que vient de nous dire Sonia. C'est s'écouter, écouter son corps et bien être justement sensible aux différences qui peuvent arriver d'un moment à l'autre sur son buste, peu importe, au moins en parler.
Exact, c'est très important parce que la femme elle-même, elle connaît mieux ses seins que les médecins. Donc toute modification, vous voyez, Sonia, elle a bien dépisté parce qu'elle a vu que c'était pas normal ce qu'elle avait. Donc, elle aurait pu rester comme ça en disant, bon, bah, ça va passer, j'ai reçu un coup. Mais ça, c'est être attentif. C'est alors, très important.
Sonia, votre cancer, est-ce qu'il porte un nom spécifique?
Alors, dans le langage, entre guillemets, entre copines, on s'appelle les triplettes. Enfin, j'avais un triple négatif. Donc, évidemment, à l'époque où tout a commencé, je n'avais aucune culture cancer. Ce n'est plus le cas aujourd'hui, parce que je me suis beaucoup engagée depuis. Et j'ai été suivie donc, à l'Institut Curie à Paris par le professeur Pierre Gat. Et c'est voilà, lors de la consultation d'annonce qu'on m'apprend ce cancer, a priori très agressif. Mais ce que j'ai retenu, c'est qu'il répondait bien à la chimiothérapie. Et c'est à partir de là que je me suis dit, bon, on va faire en sorte que ça réponde bien. Voilà.
Docteur Nasrin Khalez, on parle du cancer du sein, il y a en fait des cancers du sein. Alors, ce triple négatif, hein, sans rentrer trop dans les détails, qu'est-ce que c'est?
Alors, c'est vrai que, par exemple, à l'hôpital, dans la salle d'attente, quand les femmes attendent, elles se parlent et disent, moi aussi, j'ai eu un cancer du sein. En fait, il n'y a pas un cancer du sein. Et depuis des quelques années, on a fait énormément de progrès sur la classification des tumeurs malignes du sein, les cancers du sein. Ça, c'est très important parce que de cette classification dépend aussi des traitements. C'est-à-dire qu'on ne donne pas le même traitement à deux cancers de deux femmes à âge égal.
Donc, il y a déjà plusieurs... pour les auditeurs, hein, tout cancer ne veut pas dire qu'il va y avoir forcément geste chirurgical. Tout cancer ne veut pas dire qu'il y aura chimiothérapie.
Exact.
Ça dépend
de la nature, de l'analyse de la tumeur. Et l'analyse est très, très raffinée puisque... On voit même dans ces analyses, est-ce que ces tumeurs vont réagir à la chimio? Est-ce que c'est bien de donner la chimio ou un autre traitement? Donc, l'analyse de la tumeur est très, très raffinée. Et du coup, de là découlent les traitements personnalisés. Ça, c'est très important. Alors, 15% des cancers du sein, il faut parler franchement, sont des cancers de mauvais pronostic de nos jours. Malheureusement, ça touche ces cancers les femmes jeunes comme Sonia. C'est le cas de triple négatif, c'est un cancer du sein qui n'a pas de récepteur aux hormones, c'est-à-dire que cette patiente ne peut pas bénéficier d'une hormonothérapie parce que cette tumeur n'est pas sensible aux anti-hormones estrogènes. Et deuxième chose, donc il n'y a pas de récepteur estrogène, il n'y a pas de récepteur progestérone et il n'y a pas non plus le récepteur HER2, c'est-à-dire que cette patiente ne peut pas bénéficier de certains traitements par les anticorps. Donc c'est pour ça qu'il y a trois choses négatives, deux récepteurs négatifs et le récepteur anticorps négatif, ça s'appelle triple négatif. Comme ça touche souvent les femmes jeunes, c'est des femmes qui bénéficient de la chimiothérapie. Mais après, réagissent bien à la chimio et après la surveillance, après quelques années, en principe, ces femmes-là, elles sont tranquilles.
Alors, vous l'avez dit, hein, chez vous, en tout cas, la chimiothérapie a très bien marché. Vous avez reçu d'autres traitements en parallèle?
La radiothérapie, enfin chirurgie, deux chirurgies puisque j'avais le ganglion sentinelle qui était touché, donc il a fallu faire un...
Il se situe où exactement?
dans le creux axillaire. Hein. Donc, c'est le premier ganglion, en fait, qu'on regarde. Et donc, par la suite, il y a eu un curage. Et donc, suivi d'une chimiothérapie classique. Avec une radiothérapie, sachant que j'étais rentrée dans un protocole particulier, puisque j'ai eu des séances beaucoup plus fortes en termes d'irradiation, entre guillemets, et donc sur une durée plus longue.
Vous pouviez continuer à travailler, par exemple ?
Je n'avais pas le choix.
Vous deviez travailler indépendant,
donc le bien-être, prendre soin de moi, c'était des mots qui
vous disiez en plus avec des enfants en bas âge.
Voilà, une vie quotidienne très très compliquée et j'étais plutôt dans la survie sociale que dans la survie tout court. Voilà, j'avais pas trop peur de mourir, bizarrement, même pas du tout. Ça choque beaucoup de gens dans mon entourage, mais la mort sociale, oui, je la voyais arriver.
Et votre vie familiale, est-ce qu'elle a été bouleversée justement par la maladie, par vous arrivez justement à évaluer ce qui a été du ressort de la maladie et puis du ressort de la vie quotidienne?
En fait, tout était emmêlé. Enfin, les travailleurs indépendants font fusion quand on est tout seul avec son métier. Et donc, j'ai tout organisé en fonction des traitements. Toute mon énergie était focalisée là-dessus. Et ma vie familiale en a beaucoup. Oui, ça a été compliqué.
Est-ce que ça a changé le rapport que vous aviez, que vous avez aujourd'hui avec votre corps ?
Alors, par rapport à mon corps, non, pas vraiment. Enfin, je sais pas, j'ai pas trop d'opinion là-dessus.
Non, mais une appréhension de dire finalement ce corps, il est avec moi, mais il peut aussi être contre moi. Des choses ont changé par rapport à ça ?
Ah oui, le regard sur soi, bien sûr. On a quand même des cicatrices. À chaque fois qu'on a un examen médical, on s'imagine trois rechutes. Et c'est vrai que c'est plus comme avant, ça c'est clair. Il se passe quelque chose.
Vous citiez tout à l'heure un des professeurs, un des médecins qui a été important pour vous. Quel a été le rapport au-delà, justement, des grands spécialistes, votre rapport avec les soignants en général ?
À Curie, c'était formidable. J'ai surtout un regard très attendri pour les infirmières, parce que ce sont elles qui nous maternent, il n'y a pas d'autre mot. Et on a besoin de se sentir materné. Je crois qu'il ne faut pas avoir peur de le dire pour certaines d'entre nous. Et puis aussi, et on n'en parle pas assez, le personnel administratif. Quand elles vous commandent un taxi après vos traitements, moi je trouve que c'est prendre soin de nous aussi. Et voilà, donc j'ai vraiment eu de ce point de vue-là, je leur tire vraiment... Je leur dois beaucoup.
On sent la dimension justement d'une crainte quand même d'une déshumanisation à travers ce cancer du sein. C'est aussi pour ça que pas mal de femmes font appel à des réseaux. Pour vous, Sonia, c'était quelque chose de très important.
Je suis beaucoup dans le lien et je crois qu'aujourd'hui, si je dois faire un plaidoyer, c'est celui-là. La culture du lien, de la solidarité, d'abord entre nous, entre les femmes, entre les patientes. Et en cela, il y a un réseau social de proximité qui s'appelle mon réseau cancer du sein et que je suis très fière aussi de représenter aujourd'hui en tant qu'utilisatrice, puisque avec le recul qu'on a, enfin moi, le recul que j'ai par rapport à la maladie, je peux à mon tour, comme je peux, soutenir d'autres femmes, particulièrement celles qui sont touchées par un triple négatif, qui ont très peur, et pouvoir échanger avec elles, les rassurer, et très humblement, je pense que c'est super, quoi. Il y a les médecins, il y a les soignants, ils font ce qu'ils peuvent, ils n'ont pas toujours tous les moyens possibles, et puis à nous, les patientes, on doit être solidaires entre nous.
Voilà. Merci beaucoup, Sonia, pour ce témoignage. Merci d'être venue ici dans les studios de Priorité Santé. Tout à l'heure, on va retrouver les auditeurs de RFI, mais je me retourne vers vous, docteur Nasrine Khaled, donc gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Il y a le travail d'acceptation aussi de la maladie, c'est important parce qu'il faut accepter son cancer pour accepter son traitement.
Exact. Mais ce témoignage de Sonia est très important puisque lors de la consultation d'annonce, on a fait énormément de progrès là-dessus à l'Institut Curie, c'est qu'on prend des laps de temps plus longs pour annoncer. Mais malheureusement, vu la gravité de la maladie, c'est parfois pas suffisant. Et derrière la consultation d'annonce du médecin, il y a une consultation qu'on appelle infirmière, où la patiente est prise en charge par une infirmière qui réexplique tous les traitements possibles qu'on peut donner à la patiente. Le cancer du sein touche un organe qui est féminin, bien sûr, et un organe sexuel. Et donc, le retentissement physique et psychologique paraît quand même beaucoup plus important qu'un organe qui est caché, enfoui, par exemple, dans le ventre. Donc, le retentissement psychologique est important aussi. Donc, je voulais dire aussi que, Dieu merci, on a fait beaucoup de progrès, que ce soit au niveau des maisons des patientes, au niveau des associations. Il n'y a pas que les médecins, il y a tout l'environnement du personnel, c'est-à-dire les kinésithérapeutes, les diététiciens prennent en charge la patiente pour donner des conseils pendant la maladie, sur les effets secondaires, mais également après la maladie, la réinsertion et le travail, retour au travail.
On va en reparler, hein, vous restez avec nous, docteur Nasrine Khaled. On se retrouve dans 3 minutes après les informations. Vous pouvez nous appeler, hein, 33 1 84 22 75 75.
Priorité santé. Caroline Paré.
Et on vous retrouve, docteur Nasrine Khaled, gynécologue à l'Institut Curie à Paris, pour cette seconde partie de Priorité Santé consacrée au cancer du sein. Avant le flash d'information, on évoquait tout à l'heure le dépistage, différents types de cancers, la prévention, la surveillance, autant d'éléments qui ont permis, hein, il faut le souligner en France, une baisse significative du taux de mortalité. On est passé de 30-35% à 7-10%. Comment expliquer justement cette baisse de la mortalité par cancer du sein?
Avant tout par le dépistage précoce. Plus une tumeur est dépistée tôt, moins il y a d'envahissement des ganglions, voire des métastases. Donc c'est une tumeur localisée. Donc la personne avec un traitement approprié va s'en sortir. Et deuxième chose, c'est les progrès importants dans les traitements. C'est-à-dire qu'on a des chimiothérapies, divers types de chimiothérapies, divers types d'hormonothérapies, peut-être qu'on en parlera après, ou des traitements ciblés qui n'existaient pas avant, qui donnent des très bons résultats. Puis à l'Institut Curie, on est aussi sur maintenant des programmes de recherche d'immunothérapie qui va voir le jour vraiment en fin 2017. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on a de la chance en France d'avoir des hôpitaux qui ont le potentiel de faire la recherche, puisque par exemple à l'Institut Curie, 17% des femmes qui sont atteintes de cancer du sein participent aux essais cliniques et bénéficient des traitements innovants. Donc c'est une conjonction de plusieurs choses qui font que la mortalité a baissé.
Alors on va tout de suite, si vous le voulez bien, donner la parole à un auditeur, c'est Clovis. Clovis qui est en ligne de Ouagadougou au Burkina Faso. Clovis, bonjour.
Bonjour.
On vous écoute.
Merci beaucoup. Je remercie toute l'équipe de Priorité Santé. Alors, je viens exposer un peu le cas de ma maman, qui a 55 ans et qui, en décembre 2016, a découvert qu'elle a un cancer du sein. Nous avons tapé à toutes les portes, nous avons cherché des structures qui pouvaient nous accompagner financièrement au regard des charges dont on devait faire face. On n'a trouvé personne, mais finalement, on a des personnes de bonne volonté qui nous ont accompagnés. On a tenté même d'hypothéquer une maison pour nous accompagner financièrement, à prendre en charge justement notre main. Et finalement, on a pu démarrer les cures de chimiothérapie. Elle en a fait 6 et 25 séances de radiothérapie en Tunisie. Alors, les questions que j'ai à l'endroit du docteur, c'est après toutes ces séances-là, est-ce qu'il y a un régime alimentaire spécifique pour des personnes qui ont justement fini la chimio et la radiothérapie? C'est-à-dire, est-ce qu'elle peut se restreindre à ne pas consommer l'alcool ou à ne pas manger tel ou tel aliment? Ensuite, lorsqu'elle a fini sa mastectomie du sein droit en janvier 2017, 6 mois plus tard, on s'est rendu compte que son bras droit a pris une certaine proportion, c'est-à-dire que le volume du bras a augmenté de 4 cm environ. Et les médecins nous parlent de circulation de la lèvre. Donc elle est soumise constamment au massage chez le kiné tous les 2 jours. Et elle doit porter également un gant qui doit permettre la circulation de la lèvre. Et tout cela, c'est budgétivore. Et on se demande, est-ce qu'il y a une solution définitive pour ça? Est-ce qu'il n'y a pas réellement de régression du volume du bras?
Docteur Nasrine...
Ni faire le sport...
Oui, on vous écoute, Clovis.
Oui, ni trouver une position adéquate pour se coucher. Alors, et on se demande, qu'est-ce qu'il faut faire réellement?
Docteur Nasrine Khaled, on l'a entendu, une bonne prise en charge, hein, de la mère de Clovis, mais malgré tout, des répercussions sur son bien-être au quotidien.
Alors, il y a 2 questions chez Clovis. Donc, premièrement, régime alimentaire. Oui, il y a un régime alimentaire, mais c'est le bon sens. C'est-à-dire qu'il faudra avoir un régime alimentaire équilibré. Il faut pas se priver des choses de l'alimentation, mais il faut lutter vraiment contre le surpoids. Le surpoids, est un facteur de risque de cancer du sein. Et si elle était pas, si elle n'est pas en surpoids, ça va améliorer aussi son problème de circulation au niveau du bras. Donc, tout avec modération, mais équilibré. Deuxième problème, c'est que malheureusement, la maman de Clovis a eu, ce que je pense, un curage des ganglions axillaires. Ayant enlevé l'ensemble des ganglions du creux axillaire, il n'y a plus de ganglions à cet endroit-là pour drainer la lymphe. Ce qui fait que le bras gonfle parce qu'il n'y a plus de ganglions. Alors, c'est là que je dis que c'est bien de dépister le cancer du sein tôt, parce que comme a dit Sonia, elle a bénéficié. Maintenant, les techniques, on n'enlève pas tous les ganglions. On n'enlève que si le ganglion sentinelle, c'est-à-dire le premier relais ganglionnaire, est touché, ce qui évite d'avoir des gros bras. Bon, après, malheureusement, dans certains types de curage, il y a quand même des gros bras dus à un défaut de circulation lymphatique. La solution de ça, c'est que du côté droit, la maman de Clovis doit faire attention à porter des charges lourdes, à ne pas se faire piquer pour des prises de sang, ne pas se faire prendre la tension du côté droit, porter le manchon de contention qui est un petit peu comme les bas de contention, sauf que c'est au niveau du bras, hein, qui draine la circulation lymphatique. Et il m'a demandé, est-ce qu'il y a une position? Oui, il faudra qu'elle mette son bras sur un oreiller, par exemple quand elle dort, pour que ce soit en position déclive. Mais malheureusement, il y a un défaut de circulation lymphatique et le gros bras peut persister.
Clovis, le docteur Nasrine Calais a bien répondu à vos questions?
Oui, j'ai deux autres questions. Je ne sais pas si c'est possible de continuer.
Très brièvement, s'il vous plaît, parce qu'il y a la suite, oui, de l'émission.
Oui, je vais rapidement, parce qu'elle est soumise à plusieurs traitements, parce qu'elle est hypertendue et également elle a le glaucome. Entre justement tous ces traitements, est-ce qu'il n'y a pas de conséquences qui puissent subvenir à l'issue de ça? Et est-ce qu'on peut finir définitivement de traiter le cancer? Parce qu'on dit qu'il y a un taux de prévalence ou de recrudescence du mal de 20%. Quel doit être l'état d'esprit du malade et de tout son environnement?
Une crainte d'une rechute, est-ce que tout ça ne va pas interférer dans ces différents traitements?
Non, alors les autres traitements, ils n'interféreront pas du tout avec son traitement de cancer. La seule chose qu'il faut qu'elle évite, c'est prendre des traitements hormonaux qui restent contre-indiqués chez une dame qui a eu un cancer du sein. Mais non, pas du tout, il ne faut pas s'inquiéter de ça, parce qu'il ne faut pas oublier quand même qu'on meurt plus souvent des accidents cardiovasculaires que de cancer du sein. Donc, il faut garder le traitement antihypertenseur, qui est très bénéfique, lutter contre le surpoids, avoir une alimentation équilibrée et ne pas interférer avec les autres traitements.
Merci beaucoup de votre appel, Clovis. On vient justement de parler de ces facteurs externes en quelque sorte, hein, le tabac, l'alcool, bref, continue à avoir une bonne hygiène de vie, hein, pour toutes les maladies, pour le cancer du sein, bien sûr. Et puis, on peut dire pour d'autres femmes, eh bien, il y a des facteurs qu'on pourrait dire interne, on a parlé de l'âge et aussi des prédispositions familiales, prédispositions génétiques au cœur de ce message d'information que je vous propose d'entendre dans un instant. Génétique Cancer, une association qui lutte justement contre les cancers d'origine héréditaire ou génétique.
Quand on devient parent, on espère toujours que notre enfant nous ressemblera, qu'il aura nos yeux, nos mains, notre sourire, qu'on saura lui transmettre nos valeurs et qu'on partagera avec lui de beaux moments. De grands moments. La chair de ma chair, le sang de mon sang, le gène de mon gène. J'ai été atteinte d'un cancer il y a 5 ans. J'en suis sortie plus forte. Aujourd'hui, je suis venue avec Anna pour savoir si elle aussi devra se battre et affronter cette épreuve un jour. Car derrière certains cancers, il y a le risque qu'ils soient génétiques ou d'origine héréditaire. Pour vous, pour vos proches, choisissez de savoir. Faites le test sur geneticcancer.org.
Et c'est bien spécifié sur ce site, cet outil, ce test se veut indicatif, il ne remplace en rien les conseils d'un spécialiste. Alors, docteur Nasrine Calais, ces cancers génétiques, est-ce qu'ils présentent des risques particuliers? Est-ce qu'ils appellent des traitements spécifiques?
Oui, alors les cancers d'origine génétique ne sont pas la majorité des cancers du sein. Ça, il faut déjà bien le préciser. Ça atteint à peu près 5 à 10% des cancers du sein où on dépiste une anomalie des gènes. On connaît surtout 2 gènes, les gènes BRCA1, BRCA2. Et on peut, je veux dire, le dépistage de ces gènes ne doit pas s'adresser à la population générale. Au préalable, il faut faire un interrogatoire à la patiente, voir ses antécédents familiaux et ses antécédents personnels. C'est souvent les femmes qui ont dans leurs antécédents familiaux plusieurs cas de cancer du sein, ou un cancer du sein et de l'ovaire, ou un cancer du sein chez l'homme, ou un cancer du sein chez une fille jeune, c'est-à-dire avant 40 ans. À ce moment-là, il faut bien expliquer, il faut faire l'arbre généalogique, déterminer un score de risque, de pourcentage, c'est théorique, mais quand même, est-ce qu'elle est porteuse de cette anomalie? Et on cherche ces deux gènes, soit dans le sang, soit par un prélèvement des cellules au niveau de la bouche, pour voir s'il y a cette anomalie d'ADN. Ces cancers qui sont donc d'origine entre guillemets génétique, il y a juste une chose que je veux dire, c'est pas parce qu'on est porteuse de cette anomalie génétique qu'on va forcément faire le cancer du sein. C'est très important à entendre parce que c'est une consultation assez traumatisante, parce que quelqu'un vient qui est indemne, on fait la recherche génétique, elle est porteuse du gène, elle sort de là quand même angoissée, parce que on sait que c'est pas obligé qu'elle fasse le cancer, mais il y a un pourcentage de risque, elle a plus de risque de faire un cancer du sein par rapport à la population générale. De ce fait, ces femmes sont pas du tout suivies comme les autres femmes de la population générale. On commence à dépister ces femmes-là beaucoup plus jeunes. On se base sur l'âge la plus précoce dans la famille où il y a eu le cancer du sein. Et la surveillance de ces femmes est basée non seulement sur la mammographie, mais sur l'échographie et également systématiquement sur une IRM mammaire annuelle avec une palpation des seins tous les 6 mois et des examens radiologiques tous les ans. Ces femmes-là peuvent bénéficier également, si elles le désirent, je dis bien si elles le désirent, des chirurgies de prévention. C'est-à-dire, c'est dans ces cas-là qu'on peut proposer d'enlever les seins et reconstruire les seins, ou plus tard, vers la ménopause, enlever les ovaires et enlever donc le maximum de risque de cancérisation. Donc, c'est une population à part. On n'est pas obligé de le faire, le cancer du sein ou de l'ovaire, si on est muté, mais ça appelle encore à plus de vigilance et des examens complètement différents de la population générale.
Docteur Nasrine Khalé, vous restez avec nous. On va prendre tout de suite la direction du Mali. Nous sommes à présent en ligne avec le docteur Madanili. Bonjour. Docteur Madanili, bonjour.
Bonjour, Caroline Paré.
Vous êtes cancérologue chef du service d'oncologie médicale au CHU Mère Enfant, le Luxembourg, à Bamako. Est-ce que vous avez des données chiffrées sur la fréquence des cancers du sein au Mali?
Alors, ça c'est une question pertinente, Caroline. C'est difficile pour nous actuellement de donner des données chiffrées exactes sur le Mali, puisque nous n'avons pas un registre des cancers qui couvre tous les territoires du Mali.
Alors justement,
on peut donner les chiffres sur Bamako, qui est la capitale.
D'accord, et pour Bamako?
Sur Bamako, donc on peut dire approximativement toutes les équipes, il y a à peu près actuellement 500 nouveaux cas de cancer par an du sein, traités dans les différents hôpitaux.
Comment les femmes qui viennent vous voir apprennent-elles qu'elles sont atteintes? Par palpation, par autopalpation, en étant sortie justement d'une consultation chez leur généraliste, comment ça se passe en général?
Alors, c'est complètement différent de la France ou des pays où le niveau médical est très élevé. Malheureusement, chez nous, les gens viennent avec des cancers du sein, la majorité, je vais dire 80% des cas, à des stades avancés. Ça veut dire, dans notre médical, on dira que c'est des stades avancés où tous les signes cliniques sont présents. Donc nous, ce n'est pas des gens qui viennent par l'autopalpation ou par dépistage, malheureusement.
C'est que déjà la maladie a progressé, il y a des signes extérieurs, par exemple lesquels?
Les signes extérieurs, par exemple, là, il y a une volumineuse masse au niveau du sein qui peut être ulcérée avec des plaies. Et une masse qui peut être très douloureuse, avec déjà des ganglions, ce qu'on appelle adénopathie axillaire.
Ça veut dire des stades assez avancés et peut-être qui appellent davantage à des chirurgies et quasiment à des chimiothérapies systématiques.
Exactement. Donc, dans notre activité, la majorité des patientes, on commence les traitements déjà par la chimiothérapie. Et le plus souvent qui est non-adjuvant parce qu'il y a l'atteinte des ganglions. Et quand la chimio marche, en ce moment, la patiente passe à la chirurgie. Et chez nous, c'est quasi totalement les mastectomies avec curage.
On parlait tout à l'heure, c'était un auditeur du Burkina qui nous parlait du coût de cette prise en charge. Comment ça se passe pour le Mali? Clovis nous disait, ça a coûté très cher à la famille, ils ont failli hypothéquer la maison. Est-ce que c'est la même chose à Bamako?
Alors, le Mali, c'est un peu différent. Pourquoi? Parce que depuis 2008, le gouvernement du Mali a initié un programme d'accessibilité aux drogues de la chimie, aux produits de la chimiothérapie. Le gouvernement a essayé de subventionner depuis 2008. Et ensuite, il y a un service de radiothérapie qui a été créé, qui est fonctionnel depuis 2014. Alors, avec ça, les malades ont eu accès à la chimiothérapie. Bien sûr, le coût du transport, le coût lié à l'acte de la chimiothérapie, ne fait pas partie. C'est l'accès aux médicaments. Et ce programme a été tellement génial et bien imaginé que elle est débordée, ce programme est débordé actuellement. Le nombre de malades augmentera en exponentiel. Et malheureusement, pour des raisons de crise financière que le Mali a connue, les crédits n'ont pas suivi. Donc actuellement, on assiste parfois à des ruptures de stock de médicaments.
Docteur Madanili, si on parle maintenant de la sensibilisation, peut-être pas de la prévention, mais au moins de la conversation du cancer du sein, est-ce que les femmes en parlent? Est-ce que c'est un sujet qui est tabou ou est-ce que c'est encore quelque chose qui est un petit peu honteux, caché?
Alors, de plus en plus, ce n'est plus honteux ni plus caché. Pourquoi? Parce que la société civile, surtout les malades, se sont organisés. On a déjà des associations qui sont très actives sur le terrain. J'ai nommé l'ALMAC, l'Association malienne de lutte contre les maladies cancéreuses au Mali, et une autre jeune association qui vient d'être créée il y a un an, qui est l'Association des combattants du cancer ou Bonkeleba au Mali. Ils font des journées et des campagnes de dépistage, ça tombe bien. L'Association des combattants du cancer organise le 10 octobre dans l'hôpital où je suis, une campagne de dépistage des cancers du col couplée à l'auto, pour apprendre aux femmes à faire l'autopalpation. Ce qui est génial, qui permettra d'avoir des tumeurs de petite taille si elles existent et prendre en charge rapidement.
On l'a compris, plus facile à traiter.
Plus facile à traiter. Donc de plus en plus, le cancer du sein n'est plus un tabou au Mali.
Merci.
Personne a son voisin qui a un cancer.
Merci beaucoup, docteur Madanili. Je rappelle que vous êtes cancérologue, chef du service d'oncologie médicale au CHU Mère Enfant, le Luxembourg, à Bamako. Docteur Asrine Kalé, je voulais vous citer ce message d'une auditrice de la région parisienne. Elle s'appelle Alice. Elle dit qu'elle a eu un cancer du sein à 79 ans, un âge avancé. Elle est infirmière retraitée. Elle connaissait justement les symptômes. Elle a 85 ans aujourd'hui. Ensuite, d'autres problèmes de santé, un AVC il y a 2 ans, son dépistage s'est fait à la suite d'une chute, un hématome sur le sein, ça rappelle un petit peu l'histoire de Sonia, et elle insiste, il faut encourager la prévention. Le problème, malgré tout ce qu'on entend, c'est encore le tabou. Et elle le dit, elle a 85 ans, peut-être aussi sur une certaine population plus âgée.
Alors déjà, le dépistage, c'est vrai que par la sécurité sociale, de façon systématique, va jusqu'à 75 ans. Mais à 75 ans, de nos jours, une femme n'est pas du tout âgée. Elles sont la plupart formidables. Et donc, après, j'encourage toutes les femmes à se prendre en charge et se faire des mammographies. Elles sont remboursées, une ordonnance faite par généraliste, par le gynécologue. Et c'est pas une question d'âge. Ça dépend comment on est. Et donc, je suis tout à fait d'accord avec Alice qu'il faut pas baisser les bras. C'est pas parce qu'on a 75 ans, 76 ans qu'il faut plus faire ses mammographies. C'est dans un autre cadre, et ben on le fait quand même. De même que avant 50 ans aussi, on fait des mammographies, mais c'est pas dans le cadre des dépistages. Donc il faut absolument pas baisser les bras et c'est pas du tout une question d'âge.
Alors tout à l'heure, vous l'évoquiez par rapport aux examens, docteur Nasrine Kalé, quand on est enceinte, il faut des examens spécifiques, peut-être à cause de la densité de la poitrine. Maintenant, quand on a un projet d'enfant après un cancer du sein, qu'est-ce qu'il faut faire?
Alors, autrefois, moi, quand j'étais externe, quand on avait un cancer du sein, on disait une grossesse, c'est plus possible. On s'est rendu compte qu'après un cancer du sein bien traité, dépassé un certain délai, où on est en rémission complète, on peut envisager une grossesse. Donc tout dépend de la maladie initiale. Donc une grossesse est possible après un cancer du sein, mais il y a un mais, c'est le délai de recul par rapport à la maladie. Avant d'envisager cette grossesse, bien sûr, il faut qu'on ait assez de recul, en rémission complète, et il faut faire absolument un bilan complet avant la grossesse et un bilan complet, bien sûr, après l'accouchement. Et pendant toute la durée de la grossesse, il faut quand même être bien suivi. On sait qu'on ne peut pas faire des examens radiologiques, ni des scanners, ni des IRM pendant la grossesse, parce que c'est contre-indiqué. La palpation et l'échographie restent possibles. Donc, il faut être très vigilante. Et après l'accouchement, il faut bien entendu refaire le bilan.
Docteur Nasrine Khaled, un mois de sensibilisation, octobre rose pour s'informer, lever les tabous. Et puis on peut le souligner aussi, hein, il y a une dérive dans certains messages, certaines attitudes un petit peu opportunistes. Donc recentrons octobre rose. Le message principal, c'est bien la lutte contre le cancer du sein et le dépistage.
Priorité santé sur RFI.
Et on prend maintenant la direction de Marseille. Marseille, où débute demain la 23e édition du congrès du Pharo, congrès organisé par le groupe d'intervention en santé publique et épidémiologique. Ça se passe à l'hôpital de la Timone. Bonjour, docteur Jean Louret.
Bonjour.
Alors, vous êtes membre fondateur de ce groupe de santé publique.
Oui.
Cette année, deux grandes thématiques, hein, on va en parler, pour ces rencontres entre professionnels de la santé tropicale et de la santé pour le développement. D'abord, un nom un petit peu compliqué, les arboviroses. Arboviroses, on ne connaît pas forcément le nom, mais nos auditeurs, eux, connaissent bien les maladies que recouvre ce nom un petit peu barbare. Fièvre jaune, dengue, Zika, chikungunya. Pourquoi c'est important d'en parler ?
Pour plusieurs raisons. D'abord, il faut dire qu'il y en a, il y a énormément d'arboviroses, il y en a plus de 150. Donc ce sont tous les virus qui sont transmis par des vecteurs. C'est un raccourci du terme anglais arthropod borne virus. Et le premier, effectivement, le plus important, c'est la fièvre jaune, que vous avez cité, suivie de la dengue. Alors, récemment sont apparus chez nous, parce que ce sont des arboviroses qui existaient en Afrique depuis toujours, Zika, Chikungunya, et le changement climatique les a fait peut-être monter un peu vers chez nous. Donc maintenant, on parle beaucoup de Chikungunya et Zika, mais ce sont des maladies fréquentes en Afrique. Leur émergence dans le Nord fait qu'on a découvert des choses qu'on ne connaissait pas, donc en particulier au niveau des complications.
Avec justement ces importations des cas de maladies du Sud davantage vers le Nord, cela va peut-être pousser justement certains investissements, certaines équipes à se mettre au travail dans d'autres dispositions d'esprit.
Tout à fait, oui. C'est pour ça que la deuxième journée sur ces virus s'appelle Autre regard. Le grand nombre de maladies qu'il y a eu, en particulier en Amérique du Sud, au Brésil, fait que sont apparues des données que l'on ne connaissait pas sur les complications, en particulier sur la transmission. Le Zika peut se transmettre par autre moyen que les moustiques. Par exemple, ça, c'était, on ne savait pas.
Notamment de la mère à l'enfant, on l'avait vu dans certains cas.
Par voie sexuelle dans certains cas, oui, tout à fait.
Alors, autre grand sujet pour cette réunion du Pharo, c'est perspective de la santé pour le développement, financement de la santé dans les pays à ressources limitées. On en a parlé il y a quelques minutes de cela pour les traitements du cancer du sein. Question de l'accès aux soins des populations.
Ben, c'est un des grands problèmes des pays à ressources limitées, bien sûr. Hein. Avec un paradoxe, c'est que souvent, chez nous, on paye pas les soins, ou très peu, et dans ces pays, par contre, les malades sont obligés de payer, parce qu'il n'y a pas de couverture sociale. Ça, c'est le gros problème et la grosse différence entre les pays riches et les pays pauvres. Dans les pays pauvres, il n'y a pas de couverture sociale. Et donc, le plus souvent, les malades sont obligés de payer. Ils ne sont pas forcément opposés, d'ailleurs. Si le fait de payer leur donne des soins de qualité, ils préfèrent ça qu'une santé gratuite qui est de mauvaise qualité. Mais ça, c'est la grosse discussion, effectivement, à l'heure actuelle. Pour les maladies courantes, mais vous évoquez les maladies moins courantes, entre guillemets, moins, le cancer en particulier, et effectivement, là, de nouveaux problèmes se posent, compte tenu du coût des traitements.
Avec justement la question, où trouver des fonds pour financer cet accès aux soins?
Tout à fait, oui, oui, mais bon, les fonds existent, hein. Ils sont peu accessibles, mais les fonds existent. United a je sais pas combien de millions en banque. Le Fonds mondial n'arrive pas à décaisser tout son argent. L'Europe non plus n'arrive pas à décaisser tout son argent pour le développement. Donc les fonds existent. Ils sont sous-utilisés parce qu'on manque d'un environnement humain et matériel qui permette de les utiliser. D'autant plus qu'avec le souci de la transparence, cette utilisation est de plus en plus compliquée et devient même très compliquée.
Merci beaucoup, docteur Jean Louret. Je rappelle que vous êtes membre fondateur de ce groupement Santé publique, spécialiste de cette question à l'occasion de cette 23e édition du Congrès du Pharo. À partir donc de demain et jusqu'à vendredi à Marseille. Priorité santé touche à sa fin. Merci à vous, docteur Nasrine Khaled, d'être venu ici dans les studios de RFI.
Merci.
Gynécologue à l'Institut Curie à Paris. Vous nous avez accompagnés pendant toute cette émission, tout comme vous, Sonia, votre témoignage tout à l'heure dans la première partie de Priorité santé. Merci beaucoup.
Merci.
Et demain, dans Priorité santé, on parlera de l'allaitement maternel, bienfaits de l'allaitement pour les mères et les bébés, l'importance de cette alimentation dans les premiers mois, les premiers jours de l'enfant. Si vous voulez témoigner, 33 1 84 22 75 75 et à demain.
C'était Priorité Santé avec Suno Assurance. Notre métier, l'assurance.